à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du mercredi 3 octobre 2018. Il est 17h30 en temps universel et Kabadou à la présentation. Voici les titres. Dernière ligne droite au Cameroun avant l'élection présidentielle de dimanche.
Il y a une sécurisation de toutes les zones où les bureaux de vote. Il y aura élection dans les régions du nord-ouest et du sud.
Le président de la commission électorale. Le Niger expulse la représentante de MSF à Magaria. Le procès de Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale est reporté au 12 novembre. Mélania Trump poursuit sa tournée en Afrique. Elle a visité un ancien fort esclavagiste au Ghana. La Cour de justice internationale de La Haye se prononce contre les sanctions américaines sur l'Iran. Ne manquez pas les informations sur l'actualité économique et les sports dans notre partie magazine, mais tout d'abord le journal. Au Cameroun, c'est la dernière ligne droite pour la présidentielle de dimanche. Les deux semaines de campagne s'achèvent samedi. Et aujourd'hui, à Yaoundé, le président Delakam, la structure chargée de l'organisation des élections, a affirmé que tout est fin prêt pour le scrutin de dimanche. De Yaoundé, la correspondance de Bagassikoura.
Le président d'Elections Cameroun, Eno Abrahams Egbe, s'adressait à la presse après une session de travail des membres de la commission électorale. Il a assuré que tout est fin prêt pour que les quelques 6,5 millions d'électeurs qui sont inscrits sur les listes puissent voter sans souci dimanche. Le président d'Elections Cameroun a notamment évoqué les mesures mises en place pour la sécurité du scrutin dans les deux zones anglophones en conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays.
Il y a une sécurisation de toutes les zones où les bureaux de vote. Il y aura élection dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest.
Qu'en sera-t-il du vote des déplacés fuyant les zones en conflit? Le président d'Elections Cameroun ne donne pas de chiffres concernant leur nombre, mais souligne qu'ils sont nombreux et que la plupart ne pourront pas voter.
Les déplacés, mesures pratiques, nous avons conseillé pour respecter dans le cadre de la loi, il n'y aura pas de vote des déplacés. Nous avons demandé à ceux qui sont déplacés de faire des transferts, dans les différents lieux où ils sont.
Un récent rapport des Nations Unies parle de plus de 200 000 déplacés. Le président de la commission électorale souligne que des moyens seront mis en place pour ceux qui veulent retourner voter dans les zones en conflit.
Il est transporté par des voies traditionnelles, c'est-à-dire par voie de route pour les amener dans les différentes zones. Donc vous allez retrouver que beaucoup de déplacés sont en train de rentrer chez eux pour pouvoir s'engager au processus.
Le président de l'ECAM rassure qu'un dispositif sécuritaire permettra dimanche la réussite du scrutin dans toutes les régions du pays. Il note que jusque-là, la campagne s'est déroulée sans aucun incident majeur. Bagassikoura, Yaoundé, pour VOA Afrique.
Nous reviendrons sur les élections au Cameroun dans notre partie magazine juste après ce journal. Le gouverneur de Lagos, capitale économique du Nigeria, a échoué à la primaire de son parti pour briguer un second mandat à quelques mois des élections générales prévues début 2019. C'est ce qu'ont annoncé les représentants du parti au pouvoir. Le gouvernement de Niamey a donné un ultimatum de 48 heures à un médecin travaillant pour Médecins sans frontières suisse pour quitter le Niger. Elle est accusée de diffuser de fausses informations. La Suissesse a publié une vidéo sur les décès massifs liés à la malnutrition et au paludisme à Magaria, dans le centre-est du pays. Des précisions avec le correspondant de VOA Afrique au Niger, Abdulrasak Idrissa.
Docteur Anne Pité a déjà quitté Magaria ce mercredi matin pour Niamey, d'où elle s'envolera pour son pays avant vendredi, selon le ministre de la Santé publique, Docteur Idi Iliassou Menassara.
Elle a parlé à son nom, ça veut dire pas au nom de l'organisation. Si c'était au nom de l'organisation, on allait sanctionner cette organisation. Donc la sanction ne peut être qu'individuelle. Et je pense que ça va permettre aux autres de se ressaisir. C'est l'État à l'exclusivité des informations sanitaires.
Dans une vidéo de plaidoyer diffusée sur les réseaux sociaux, la pédiatre suisse travaillant pour MSF Suisse dans le centre de récupération nutritionnelle de Magaria au centre-est du pays a annoncé que son équipe comptabilisait une moyenne de 10 décès d'enfants par jour au cours du mois dernier du fait du paludisme et de la malnutrition. Information que le ministre est allé vite vérifier sur le terrain en compagnie des responsables de l'organisation non gouvernementale. Conclusion, il y a eu exagération dans les chiffres. Abdulrazak Idrissa, Niamey, VOA Afrique.
Le procès de Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale est reporté au 12 novembre après 2 jours et demi d'audience. Une pause annoncée ce mercredi suite à la demande des avocats de l'ancien président président ivoirien qui souhaite préparer leur réponse face à l'accusation sur son rôle central dans la planification des violences contre les partisans d'Alassane Ouattara pendant la crise post-électorale de 2010-2011. Par ailleurs, la première centrale solaire en Côte d'Ivoire va être financée par l'Allemagne à hauteur de 40 millions d'euros. Le pays ambitionne de faire participer les énergies renouvelables au mix énergétique à la hauteur de 11% d'ici à 2020. L'ambassade d'Allemagne à Abidjan précise qu'une contribution de 9,7 millions d'euros de l'Union européenne est également attendue. En Guinée, 6 mois après avoir mis fin à leur mouvement, les enseignants sont repartis en grève illimitée pour réclamer l'augmentation du salaire minimum dans le secteur privé de l'éducation. En République démocratique du Congo, une nouvelle marche d'activistes pro-démocratie de lutte pour le changement dénonçant l'inertie des autorités face au massacre à répétition à Beni dans le Nord Kivu a été dispersée à coups de gaz lacrymogène à Kisangani dans le nord-est du pays. Toujours en République démocratique du Congo, le prix de la farine de froment a augmenté de 25% à Kinshasa après la fermeture fin août pour cause d'accident d'une minoterie. Des vendeuses de pain redoutent une augmentation du prix de cette denrée de base consommée par des millions d'habitants de la capitale. Le général Ferdinand Mbaou, 62 ans, farouche opposant du président congolais Denis Sassou Nguesso, dénonce le classement sans suite de la plainte qu'il avait déposée en 2015 après avoir été grièvement blessé dans une tentative d'assassinat, un dossier sur lequel nous reviendrons dans notre partie magazine. La première dame des États-Unis, Melania Trump, a visité au Ghana et toujours en visite, elle s'est rendue à un ancien fort esclavagiste à 145 km d'Accra au deuxième jour de sa tournée sur le continent. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
La visite du fort esclavagiste s'est faite en toute discrétion. La première dame s'est contentée de remercier ses hôtes pour leur accueil chaleureux, notamment ses deux accompagnantes, un ministre local et la reine Deya, originaire de la région de Cape Coast. Madame Trump a été reçue dans la salle Obama, nommée après la visite de l'ancien président Barack Obama en 2009. Hier, la première dame des États-Unis s'est rendue au service pédiatrique d'un hôpital d'Accra, où elle a distribué des ours en peluche aux enfants. Elle a aussi rencontré la première dame ghanéenne, Madame Rebecca Akufo-Addo. Il n'y a pas eu de déclaration publique, mais cette visite sur le continent africain est consacrée essentiellement aux enfants à travers sa campagne Be Best. Melania Trump se rendra ensuite au Malawi, au Kenya et en Égypte pour boucler sa tournée de 5 jours sur le continent.
L'un des chefs locaux du groupe État islamique et 15 autres djihadistes ont été tués par les forces égyptiennes dans 2 incidents distincts dans la péninsule du Sinaï, selon des sources de sécurité. Environ 300 djihadistes et une trentaine de soldats sont morts depuis le lancement le 9 février de Sinaï 2018, selon des chiffres officiels. Cette opération avait été commanditée par le président Abdel Fattah al-Sissi, près de 3 mois après un carnage qui avait fait plus de 300 morts dans une mosquée du Sinaï. Au Maroc, de nouveaux corps ont été repêchés mercredi sur les côtes après le naufrage lundi au large de Nador d'une embarcation de migrants qui a fait au moins 13 morts, parmi lesquels des ressortissants maliens et guinéens a-t-on appris. Un bilan qui pourrait s'alourdir selon local de l'association marocaine des droits de l'homme.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Cour internationale de justice a ordonné aux États-Unis de mettre fin aux sanctions contre l'Iran visant des biens à des fins humanitaires, mais Washington avait déjà récusé la compétence de la Cour dans cette affaire. Abdourahman Dia.
Les juges de la Cour internationale de justice basés à La Haye ont décidé à l'unanimité que les sanctions imposées et visant certains biens constituaient une violation d'un traité d'amitié conclu en 1955 entre l'Iran et les États-Unis et qui encourage les échanges commerciaux. La Cour indique que les États-Unis doivent supprimer toute entrave que les mesures annoncées le 8 mai 2018 mettent à la libre exportation vers l'Iran de médicaments et de matériel médical, de denrées alimentaires et de produits agricoles et de biens nécessaires à la sécurité de l'aviation civile, a déclaré le juge président Abdelwaki Ahmed Youssouf. Les mesures adoptées par les États-Unis risquent de nuire gravement à la santé et à la vie des personnes se trouvant sur le territoire iranien, a-t-il ajouté. Les décisions de la CIJ sont contraignantes et ne peuvent pas faire l'objet d'une procédure en appel, mais la Cour n'a aucun moyen de les faire appliquer. La Cour se prononçait ce mercredi donc sur la demande de Téhéran introduite en juillet de suspendre les sanctions américaines réimposées par Donald Trump après le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien.
La plus haute juridiction administrative française a pour la première fois condamné l'État à indemniser un fils de harki pour les conditions de vie indignes réservées aux supplétifs de l'armée française en Algérie à leur arrivée en France. Ainsi, le Conseil d'État a condamné l'État à verser 15 000 euros aux plaignants en réparation des préjudices matériels et moraux. Et puis en Indonésie, le dernier bilan du séisme suivi de tsunami au célèbre survenu il y a 5 jours s'élève désormais à peu près 1400 morts. Les autorités se donnent jusqu'à vendredi pour trouver d'éventuels survivants piégés sous les décombres. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
Au Cameroun, la volaille a représenté 34% de la production totale de viande entre 2011 et 2016, selon le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries Animales. Les projets et programmes initiés par le gouvernement pour promouvoir et stimuler les activités d'élevage dans le pays ont porté des fruits. Ils ont permis un accroissement du cheptel de bovins de 8% par an, une hausse de 14% des ovins et respectivement 4% et 4,7% d'augmentation des porcins et de la volaille. Le groupe hôtelier américain Hilton Holdings envisage de plus que doubler sa présence en Afrique d'ici 2013. Avec un investissement de 50 millions de dollars, Hilton devrait s'implanter au Rwanda et au Botswana où la demande se fait croissante. Il devrait aussi acquérir d'autres sociétés hôtelières dans des pays où il est déjà présent. Ainsi, il est prévu l'ouverture à Lagos, au Nigeria, du Legend Hotel Lagos Airport, devant permettre à la compagnie de lancer sa marque hôtelière dite Curio, la première du genre en Afrique. Alors que la Tunisie cherche à réduire son déficit budgétaire à 3,9% l'année prochaine contre 4,9% pour 2008, le pays vient d'annoncer une hausse du service de sa dette pour 2019. Sous assistance du Fonds monétaire international, la Tunisie a réalisé des progrès notables et perçu près de 1,5 milliard de dollars de l'institution de Bretton Woods sur un total de 2,9 milliards de dollars convenus.
C'est à présent le moment de notre page sportive qui nous est présentée ce soir par Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Akia, bonsoir à tous.
Les demi-finales de la Coupe CAF.
Et le Raja Casablanca qui a battu Enyimba 1-0 en demi-finale allée de cette Coupe de la Confédération. Le Marocain Abdelilah Hafid a trouvé le chemin défilé du club nigérian après l'entame de la seconde mi-temps. À suivre tout à l'heure, 19h temps universel, El Masri qui jouera contre l'AS Vita Club.
Et de nouveaux matchs ce mercredi.
Oui, on parle de Ligue des Champions, c'est en Europe. Neymar et ses coéquipiers parisiens rebondissent au Parc des Princes face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Pour le moment, 4-0 pour les Parisiens juste avant la mi-temps. Un doublé de Neymar, un but de Cavani et un but d'Angel Di Maria. Le Lokomotiv Moscou lui fait 0-0, a fait Schalke 0-4. Tottenham face au FC Barcelone et puis Dortmund contre Monaco. Naples qui accueillera Liverpool. L'Atlético Madrid contre le FC Bruges. L'Inter Milan en déplacement chez le PSV Eindhoven et Galatasaray au Portugal face à Porto.
Hier, le champion en titre a chuté.
Oui, le champion en titre madrilène qui chute 1-0 devant le CSK avec de nombreux absents du côté des Galactiques. A noter le succès 5-0 des Romains contre le club tchèque du Victoria de Plzeň. Le match nul un but partout entre l'Ajax Amsterdam et le Bayern de Munich. Le Benfica qui s'impose 3-2 devant l'AEK Athènes. Lyon accroché sur son terrain par le Shakhtar Donetsk. À Hoffenheim, Manchester City qui s'impose 2-1. Et puis le match nul 0-0 entre Manchester United et Valence. Enfin, la belle victoire convaincante 3-0 de la Juventus Turin avec un triplé de Paulo Dybala face aux Young Boys de Berne.
Et l'Europa League demain.
Le favori de la compétition, Chelsea, accueille le club hongrois de Vidéoton pour confirmer ses bons débuts, tandis que son rival Arsenal se rend en Azerbaïdjan pour affronter le Karabakh. Le Milan AC accueille l'Olympiakos du Pirée, tandis que le FC Séville se rend en Russie à Krasnodar. Du côté de Marseille, un déplacement compliqué à Chypre face à Limassol.
Merci beaucoup Nicolas, on vous retrouve dans une heure.
Oui.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et Kabadou, toujours en votre compagnie, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Les Camerounais se rendent aux urnes dimanche prochain, dimanche 7 octobre, pour choisir leur président parmi 9 candidats, dont le président sortant, Paul Biya. Après 36 ans de règne sans partage, le président sortant brigue un 7e mandat de 7 ans à la tête du Cameroun. Comment expliquer la longévité de Paul Biya au pouvoir? Nani Talani a joint Hilaire Nkanga, porte-parole de la société civile pour la démocratie.
Il n'a pas hérité d'une élection pour être au pouvoir, donc il a été installé par M. Aïdjo dans un contexte où le peuple camerounais attendait un changement après 25 ans de règne d'un dictateur connu qui était M. Aïdjo, c'était en 1982. Bénéficiant donc de cet élément de faveur à la réalité, il s'est installé, il a été doublé par les Camerounais et avec le coup d'État qui a suivi 2 ans après, il a pu se réapproprier le pouvoir et mettre en place des mécanismes de conservation qui s'appuyaient sur les structures que lui-même il a mises en place. Alors ça c'est le premier élément qui est lié aux éléments conjoncturels. Le deuxième élément conjoncturel est celui des années 90 où il réussit à négocier le tournant devant les libertés de l'Est en refusant la conférence nationale souveraine et en adoptant ce qu'il appelait la tripartite, lui permettant ainsi de neutraliser toutes les velléités contestataires et de mise en place d'une dynamique véritablement endogène de partage de pouvoir. Donc il a pu réussir à neutraliser l'effort de changement en 1990 et il a signé un système électoral qui, au travers de la fraude, un logiciel ou une mécanique de fraude bien huilé, lui permet donc de rester et de se reproduire régulièrement. Parce qu'il faut noter sur ce plan conjoncturel qu'à la réalité, il faut doubler le plan structurel, c'est-à-dire la mise en place d'une commission des organes de gestion des élections qui, après le ministère de la Commission territoriale, sont devenus le MINAT, l'ONEL et ensuite l'ELECAM, qui, en fait, sont des structures totalement aux ordres qui lui permettent ainsi de garantir des résultats électoraux en sa faveur. Il faut comprendre là qu'on n'a jamais eu plus de 7 millions d'électeurs au Cameroun, malgré un potentiel électoral de 13 millions. Voilà.
Mais vous savez que l'élection qui pointe à l'horizon est à un tour. Alors, d'après vous, quelles sont les chances de l'opposition de l'emporter?
Je vais malheureusement être péremptoire en affirmant que les raisons que j'ai mises sur la table pour retirer ma candidature au sein de la société civile il y a 2 mois sont valables aujourd'hui. Parce que à un tour, si l'opposition ou les forces en face de M. Biya n'ont pas pu coaliser pour impacter sur les inscriptions sur les listes électorales, alors le même fichier électoral qui a permis au RDPC d'avoir près de 80% aux élections 2013 va être reconduit pour cette élection. Et donc malgré l'euphorie qu'on peut avoir autour des candidats, ça ne peut pas impacter fondamentalement sur les résultats électoraux qui vont être programmés parce que M. Biya-Paul s'est donné tout un environnement de garantie de sa proclamation comme président de la République, même si dans, sur le plan populaire, il n'aura aucune légitimité.
Donc vous pensez que l'opposition va aux élections déjà battues d'avance?
Non, c'est clair qu'elle est battue, que les élections, les opposants sont déjà battus d'avance. Pas parce que M. Biya est populaire parce que personne de sérieux au Cameroun ne peut voter M. Biya. Il est le plus impopulaire possible, mais le système électoral avec les 6 millions d'électeurs annoncés par l'élection de Cameroun, c'est les 6 millions d'électeurs pour une bonne partie sous contrôle de M. Biya et qui n'ont rien à voir avec les foules qui sont derrière les candidats aujourd'hui. Donc il y a une possibilité et il sera déclaré vainqueur même s'il va perdre dans les urnes au niveau numérique.
Hilaire Nkanga, porte-parole de la société civile pour la démocratie.
Bonjour, c'est Abdourahmane Dia. Retrouvez-moi à 18h temps universel dans votre émission À votre avis pour parler de la loterie de la carte verte aux États-Unis. La DV 2020 est ouverte aujourd'hui mercredi 3 octobre et sera clôturée le 6 novembre de cette année. Le programme propose chaque année 55 000 cartes vertes aux personnes des pays sous-représentés. Que pensez-vous de ce programme qui a déjà permis à des milliers de personnes du continent africain d'immigrer légalement aux États-Unis? Prévoyez-vous d'y participer cette année? Laissez-nous vos numéros et commentaires sur notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33. A tout à l'heure.
En Centrafrique, certains députés accusent Abdoukarim Mekoussoua, président de l'Assemblée nationale, de mauvaise gestion, de détournement et d'opacité. Sur les réseaux sociaux, beaucoup font état d'une procédure de destitution qui serait engagée contre lui. Idriss Fall a joint Lydie Ngamzou Koumat Guéré, chargée de la communication du président de l'Assemblée nationale à Bangui.
Oui, c'est une rumeur qui court depuis un bon nombre de temps, hein. Elle s'intensifie un peu plus ces derniers jours Mais il n'y a rien de concret, il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien qui a été établi, il n'y a pas eu un acte déposé devant la conférence des présidents pour demander une quelconque discussion. Donc pour l'instant, c'est ce qu'on en pense, c'est ce qu'on peut lire ça et là, mais il n'y a rien d'officiel.
Mais comme ce n'est pas la première fois quand même qu'on entend une telle rumeur, qui est-ce qui aurait intérêt?
C'est la question qu'on se pose, hein, qui est derrière cette volonté de destitution du PAN. Bon, nous sommes en politique, hein, donc tout est permis. Il y a des gens derrière qui nous existent, hein, ils sont là, ils se reconnaissent. On ne peut indexer personne puisque ça n'arrête qu'une rumeur et rien d'officiel.
Monsieur Mekassois avait promis à certains députés des 4-4, est-ce que ce serait la cause d'un certain mécontentement?
Non, je ne pense pas. Une promesse politique, même si pour l'heure elle n'est pas encore concrète, je ne pense pas que cela puisse être une raison, un argument pour voir la destitution d'un président de l'Assemblée nationale, la deuxième personnalité de la deuxième institution d'un pays. Nous sommes dans un pays qui est.
Mais il n'y a pas de problème entre le président de l'Assemblée et l'actuel président Faustin Touadéra?
Concrètement, il n'y a pas de problème. Et quand on va lire ça et là, on va voir qu'il y a un problème. Le président de l'Assemblée nationale et le chef de l'État se rencontrent régulièrement. Donc chaque semaine, ils vont nous rencontrer, ils parlent des dossiers d'actualité, ils évoquent ce qu'il faille faire. Les relations parlent beaucoup. Maintenant, quand on peut lire un journal et voir un sympathisant de tel ou tel bord, on pensait que les hommes sont à tout étirer. Ils se regardent en chat de faillance. Mais tel n'est pas l'État réellement ici en France.
Est-ce que l'Assemblée joue son rôle de contrôle de l'exécutif?
L'Assemblée nationale joue pleinement son rôle de contrôle des actions du gouvernement. Régulièrement, quand il est nécessaire, nous avons des interpellations. Là, il y a eu la rentrée parlementaire depuis hier, donc les députés sont rentrés. Il y a la deuxième session ordinaire de l'année, la dernière. Les trois prochains mois, ils joueront tous leur rôle avec les interpellations sur des dossiers de. S'il est nécessaire, il y aura une question au gouvernement où les députés pourront poser le gouvernement concernant leur protection des régions reculées, notamment le Cambrélan, ça sera toujours les questions de sécurité.
Lydie Genzou Koumagéré, chargée de la communication du président de l'Assemblée nationale à Bangui.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Le général Ferdinand Bahou, 62 ans, farouche opposant du président congolais Denis Sassou Nguesso, dénonce le classement sans suite de la plainte qu'il avait déposée en 2015 après avoir été grièvement blessé dans une tentative d'assassinat. Pour une réaction, Nicolas Pinault a joint son avocat, maître Vincent Brengart.
C'est une décision vers laquelle on se dirigeait un peu compte tenu des difficultés que peuvent rencontrer les enquêteurs pour identifier l'auteur de cette tentative d'assassinat. Maintenant, ça ne veut absolument pas dire que la procédure est terminée puisque monsieur Mbaou a mandaté un collectif d'avocats dont je fais partie avec également mon confrère Henri Thuliez et mon confrère Norbert Tricot pour nous constituer partie civile devant une juridiction d'instruction de Pontoise, autrement dit pour demander la désignation d'un magistrat instructeur qui reprendra l'intégrité du dossier et fera d'autres actes d'enquête.
Est-ce qu'aujourd'hui le général Mbaou craint encore pour sa vie?
Il craint encore pour sa vie puisque il y a maintenant quelques mois une nouvelle tentative d'assassinat a été déjouée. Elle fait l'objet d'une information judiciaire qui a été ouverte auprès de la juridiction d'instruction de Lyon. Donc c'est un dossier pour lequel on attend des réponses. Il y a plusieurs personnes qui ont été mises en examen. Sur les informations dont on dispose pour l'instant, ce sont d'anciens membres des services de renseignement français puisque ce sont d'anciens membres de la DGSE. C'est suffisamment sérieux. Si l'ouverture d'une information judiciaire, ça montre bien qu'il y avait une menace réelle et qui malheureusement est un peu en répétition par rapport à celle qu'il a déjà connue en novembre 2015. C'est pour ça que d'une part, évidemment, il nous a mandaté pour qu'on prenne toutes les initiatives juridiques pour nous constituer dans ces dossiers, mais aussi pour qu'on alerte le ministère de l'Intérieur sur les risques qui pèsent aujourd'hui sur son intégrité physique.
Qui aurait intérêt à faire taire le général Mbaou et pourquoi?
Écoutez, je pense qu'il est encore tôt pour le dire parce que ce sont des informations judiciaires qui sont en cours. Il y aura des actes d'investigation, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un contexte politique qui apparaît un peu manifeste, puisque M. Mbaou, c'est un opposant au régime de M. Sassou Nguesso. C'est pas n'importe quel individu, puisqu'il se trouve exilé en France, et que, encore une fois, c'est la deuxième fois qu'il fait l'objet d'une tentative d'assassinat. Donc ça nous donne malheureusement lieu de craindre qu'il y a en effet potentiellement une nature et un lien politique avec ce qui est arrivé.
Maître Vincent Bernghardt.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Dans un mois, les électeurs américains se rendront aux urnes pour un vote qui aura un impact profond sur les deux prochaines années de la présidence de Donald Trump. La tension est grande à l'approche de l'échéance du 6 novembre. Les démocrates cherchent à reprendre le contrôle de la Chambre des représentants. La bataille a pris une autre tournure avec Brett Kavanaugh nommé par le président Trump à la Cour suprême. Le point avec Arzuma Compaoré.
Au cœur de la fureur suscitée par la polémique autour de la confirmation du juge Kavanaugh à la Cour suprême, Donald Trump est en train de faire le tour du pays pour aider les républicains à conserver leur mince majorité au Sénat.
Promettez-moi que vous sortirez pour les élections de mi-mandat. Ne soyez pas complaisants. Vous devez aller voter.
Mais les démocrates sont déterminés à hausser le taux de participation, y compris par le prédécesseur de Trump, Barack Obama.
Ils diront, je vais attendre l'élection présidentielle, celle-ci en réalité est plus importante. Elle est l'une des plus importantes que nous ayons connues depuis très longtemps.
Selon l'analyste John Fortier, Trump sera la figure centrale de l'élection du mois prochain, motivant probablement les deux côtés.
Il adoube plusieurs personnes et travaille d'une manière qui étonne ceux qui ne l'en croyaient pas capable. Donc il est totalement engagé pour le meilleur ou pour le pire. Et il est probable qu'il aide certains candidats dans des zones républicaines, mais il risque de perdre des voix dans d'autres régions.
Les démocrates ont récolté de nombreux résultats positifs lors d'élections spéciales et de primaires, signe encourageant pour novembre.
Je pense que les démocrates vont prendre la Chambre basse. Je pense même qu'ils pourraient prendre le Sénat, même si cela semble difficile. L'enthousiasme des électeurs démocrates est extrêmement élevé. Les électeurs républicains se mobilisent aussi, mais les démocrates sont vraiment décidés.
Et nous rendrons à l'Amérique sa grandeur. Merci Virginie Occidentale.
La campagne électorale occupera Trump jusqu'au jour du scrutin. Un espoir pour lui d'atténuer la poussée démocrate qui pourrait sérieusement limiter sa présidence.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 5h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Joselle Morissin. À la console, Oshwan Kali. À la présentation, Etia Badou. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programme à notre compagnie.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avez-vous